maîtresse du bonheur, resplendissant de ses deux plumes, réjouissant de sa voix ceux qui l'entendent, la grande et bien-aimée épouse du roi, Néfertiti, vivante à jamais. Inscription trouvée à Tell el-Amarna.
Ans d'histoire. Le 6 décembre 1912, à Tell el-Amarna, au bord du Nil, une équipe d'archéologues allemands découvrait dans le sable une des sculptures les plus célèbres de l'histoire, le buste polychrome d'une femme très belle qui avait régné sur l'Égypte il y a plus de 3300 ans. Avec cette statue mystérieuse à laquelle il ne manquait que l'œil gauche, c'est tout un pan de l'histoire de l'Antiquité qui sortait du sol. L'époque où, dans sa capitale, un pharaon oublié, Amenophis III, accueillit une petite princesse de 15 ans. Elle s'appelait Néfertiti, et personne n'imaginait alors qu'en inventant la première religion monothéiste du monde, elle allait bouleverser l'histoire de l'Égypte.
Ô maître du trône, de la haute et de la basse Égypte, longue vie à ta nouvelle épouse. Sur la terre du Nil, épouse que les dieux m'ont destinée. Mon peuple t'a donné un nom, Néfertiti. Le monde entier respectera la femme d'Amenophis III.
Néfertiti !
Qu'est-ce que ça veut dire, Néfertiti ? La belle est venue.
Et oui, la belle est venue, c'est le nom égyptien de Néfertiti, à laquelle vous venez de consacrer un roman historique, Gérald Messadier, un livre sur la couverture duquel on voit ce fameux buste de Néfertiti découvert en 1912 et auquel il manque l'œil gauche. Est-ce que on sait pourquoi ce buste qui se trouve aujourd'hui dans un musée de Berlin, pourquoi est-ce qu'il manque un œil?
Personne n'a donné d'explication. Elle me paraît résider dans un petit détail. C'est une encoche au bas de l'œil gauche, qui, je le rappelle, est l'œil de la nuit, celui qui voit la nuit, contrairement au droit, et qui est le mauvais œil, parfois. Cet œil a été, on l'a fait sauter à la pointe d'un couteau par malveillance, à l'époque déjà, de même que par malveillance, la momie qui a été trouvée l'année dernière par une archéologue américaine.
Et qui est celle de Néfertiti, peut-être.
Et qui est presque certainement celle de Néfertiti, avait été sauvagement massacrée. On n'a jamais vu une momie massacrée comme ça.
Alors, il s'agissait d'effacer la mémoire de cette femme, dont on sait peu grand-chose, pas grand-chose. On parle toujours, de façon générale, d'ailleurs, de l'histoire de l'Égypte un peu au conditionnel. C'est peut-être la raison pour laquelle vous avez choisi la formule du roman, hein, Gérald Messadier. Mais nous allons parler de ce que l'on sait, nous, de Néfertiti. La belle est venue, c'était le nom que l'on donnait les Égyptiens. On a dit souvent qu'elle venait de très loin, qu'elle venait du nord, de l'Égypte, d'une région qui s'appelle le Mitanni, qui était en Syrie. Pour vous, ce n'est pas exact.
Hein. Il me semble plutôt que c'est la fille d'un des grands personnages de la fin de la 18e dynastie, Aï, qui était d'abord le frère de la reine, l'épouse d'Amenophis III, qui était également le beau-père du général le plus puissant, Horemheb, puisqu'il avait donné son autre fille, la sœur de Néfertiti, en mariage à Horemheb. Donc je crois que Néfertiti est la fille de Aï.
Alors ce personnage important, ce Aï, qu'on retrouve tout au long de votre roman, on dit aussi qu'elle était venue pour épouser... Bon, elle s'est rendue célèbre parce qu'elle était la femme d'Akhenaton, mais avant de se marier avec lui, elle aurait épousé son père, Amenophis III. Là, c'est pas encore certain.
C'est pas certain, c'est probable, ce n'est pas certain. Elle aurait été de la sorte sacrée grande épouse royale. C'était une coutume assez désagréable, enfin pour nos yeux à nous aujourd'hui, d'effleurer de très très jeunes filles, et on les nommait donc grandes épouses royales. Elles étaient si elle devait épouser un roi, et c'était elle qui leur conférait la royauté.
Alors Amenophis III, qui aurait peut-être été son mari, vous vous en doutez, c'est un pharaon dont on parle peu, qu'on ne connaît pas très bien, on le connaît beaucoup moins que Ramsès II, par exemple, ou que les bâtisseurs des pyramides comme Khéops. Et pourtant, cet Amenophis III est un grand pharaon à une époque où l'Égypte était vraiment à l'apogée de sa puissance. Peut-être le début de son déclin, mais c'était le moment où elle a été la plus puissante.
Oui, c'est un des grands Thoutmosides. C'est un des grands Thoutmosides, la lignée de Thoutmosis, et la fin de sa vie a été un peu assombrie, il était très malade, et le pouvoir, il faut le dire, c'est lui qui a quand même commencé à privilégier le culte du dieu solaire pour vexer les clergés traditionnels, c'est-à-dire les clergés d'Amon, d'Osiris et des autres dieux.
Alors cet Amenophis III, c'est un grand bâtisseur aussi, il a construit beaucoup de choses à côté de Thèbes, hein, aujourd'hui Karnak, il a construit notamment les fameux colosses de même nom, hein, qui faisaient 20 mètres de haut, qui font toujours,
qui sont toujours là, 20 mètres
de haut, 720 tonnes,
état,
un grand bâtisseur dans sa capitale qui était Thèbes, qui aurait épousé, on ne sait pas, Néfertiti. En tout cas, lorsqu'il meurt en 1372, lorsque Amenophis III meurt en 1372, avant Jésus-Christ, je précise, hein, Néfertiti Titi donc serait veuve si elle l'avait épousé à 17 ans, pas pour longtemps en tout cas, puisqu'elle épouse alors, ça c'est sûr, le fils de son mari, qui avait 2 ans de moins qu'elle. C'est un inceste, comme cela se faisait souvent.
Inclinez-vous devant votre pharaon. Maître de la basse et de la haute Égypte, Amenophis IV.
Voici Néfertiti, votre reine. Nous quitterons Thèbes, descendrons le Nil et créerons une ville heureuse tout entière sous la protection du dieu soleil. Aton, la cité de l'horizon.
Les prêtres s'opposeront à nos projets.
Je les chasserai de la cité nouvelle.
Alors c'était un autre extrait d'un péplum qui s'appelle Néfertiti de Guy Gilles, dans lequel donc Amenophis IV, le fils de Amenophis III, le futur Akhenaton, épouse Néfertiti et va et part avec elle au sud de Thèbes pour construire une cité nouvelle et un nouveau culte, Aton, le culte d'Aton, le culte du soleil. Alors on a souvent dit, et c'est ça qui l'a rendu célèbre, qu'avec son mari Akhenaton, elle a créé la première religion monothéiste de l'histoire, Gérald de Messadier.
Parfaitement faux, elle a créé une monolatrie. Le disque solaire n'était pour les Égyptiens qu'un des aspects du grand dieu unique créateur. On dit souvent que la religion égyptienne est polythéiste. C'est tout à fait superficiel, c'est un contresens. Elle ne croyait qu'à un dieu unique qui avait plusieurs formes, qui prenait toutes les formes de l'existence sur la terre. Il était faucon, il était panthère, il était crocodile. Mais c'était toujours un dieu. Donc cette légende de l'invention du monothéisme est absolument ne tient pas debout.
Ouais. Mais qu'en se fait-il justement que cette, moi j'appelle ça une religion nouvelle, en tout cas c'est une religion, un culte nouveau, Gérald Desadier.
Oui, et surtout opposé aux religions traditionnelles, ce qui a déclenché un désordre épouvantable.
Et notamment auprès de la grande puissance à côté de Pharaon. La grande puissance qui régnait en Égypte, c'était le culte d'Amon, c'était les prêtres d'Amon, Amon.
Il y avait les prêtres d'Amon, il y avait les prêtres de Ptah, il y avait énormément de dieux traditionnels, et chaque région, chaque village avait son dieu tutélaire, chaque circonstance de la vie, il y avait une déesse pour les accouchements, il y avait un dieu de la virilité qui s'appelait Mine, qui fait toujours rire les touristes, il y avait plusieurs dieux, et tout d'un coup, d'un trait de plume, voilà Akhenaton qui supprime tous ces dieux.
Bah d'ailleurs, d'où son changement de nom. Amenophis, qui est tiré de Amon, ça devient Akhenaton.
Akhenaton.
L'aimé de Aton.
L'aimé d'Aton. Et tout ça, évidemment, est très, 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 très mal accueilli. Il fait marteler les têtes et les statues et les bas-reliefs des autres dieux. Scandale, non seulement dans les clergés de basse et de haute Égypte, mais également chez les fidèles.
On voit apparaître aussi sur les bas-reliefs, justement, ce nouveau dieu. Alors, il n'a plus de figure humaine, c'est tout simplement un soleil avec des rayons au bout desquels
il y a des petites mains. Oui, c'est assez joli, mais c'est quand même une révolution inutile.
Mais pourquoi l'a-t-il faite, justement?
Il l'a faite parce qu'il était, il trouvait que les prêtres avaient trop de pouvoir. Et il faut dire que les prêtres, à l'époque, servaient de banquiers. C'était eux qui payaient l'argent pour les moissons, pour les grands travaux. Et c'était des fermiers généraux aussi. Et il a trouvé leur pouvoir excessif. Il a décidé de réduire ce pouvoir en ne plus créant qu'un dieu avec un seul clergé qui serait sous ses ordres.
Et est-ce que c'est pas aussi la raison, Gérald Messadier, pour lesquelles Akhenaton et sa femme, Néfertiti, quittent Thèbes pour construire une ville tout à fait extraordinaire, qui a pratiquement été engloutie dans les sables du désert aujourd'hui, mais qui était une nouvelle capitale. C'était plus Thèbes, c'était cette nouvelle ville appelée Akhetaton à l'époque.
Oui, et beaucoup plus vivable entre nous que Thèbes. Le climat était plus sec, Thèbes est étouffante, de même que Memphis. Il l'a construite sur la rive droite du Nil,
en amont plus agréable, de Thèbes, à 300 km au nord.
300 km au nord, c'était beaucoup plus agréable, on respirait, alors que le palais, même le palais royal de Thèbes, on se demande comment Memphis III et sa femme Thi avaient pu vivre là-dedans, c'était étouffant.
Oui, alors là, bon, c'est quand même un exploit, je crois qu'elle a été construite. C'est
en trois ans, trois, quatre ans.
C'est vraiment une.
Avec des temples, avec des statues, une merveille d'urbanisme.
Un temple gigantesque, qui faisait 275 mètres de large et 800 mètres de long, c'est quand même inouï, et dont il ne reste pratiquement rien.
Oh, il en reste quand même assez pour les archéologues.
C'est là, en tout cas, qu'on a retrouvé le fameux buste de Néfertiti. Il fait venir d'ailleurs aussi toute l'administration de l'Empire. Tout se déplace, au fond, avec le pharaon.
La cour, les barbiers, les perruquiers, les cabaretiers, les brasseurs, tout va. Et Thèbes et Memphis, évidemment, sont menacés de décadence, d'où la révolte également des gens de ces deux villes.
Alors tout se déplace, y compris bien entendu la reine Néfertiti, qui exerçait, semble-t-il, autant de pouvoir que son mari Akhenaton.
Tu es associé aux cérémonies du culte d'Aton. Tu assistes au conseil de l'Empire. Peu à peu, tu as pris les responsabilités confiées à ma mère. Que veux-tu de plus ?
Un pouvoir égal au tien.
Néfertiti, je te nomme souveraine du clergé. Lève les impôts qui seront nécessaires. La grande épouse aura autorité sur toutes les finances de l'Empire. Qu'on lui remette les insignes du pouvoir royal.
Néfertiti, reine d'Égypte.
Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui Néfertiti.
Et pardon pour cet anachronisme qui vous a beaucoup fait rire, Gérald Messadier. C'était Néfertiti, chanté par France Gall et avec des paroles de Serge Gainsbourg lui-même.
Et je reconnais bien Gainsbourg, là.
Hein, la passion pour Néfertiti, vous avez traversé les siècles, elle est arrivée jusqu'au 20e siècle. En tout cas, c'était 33 siècles avant Gainsbourg. Est-ce qu'elle exerçait vraiment un pouvoir important? Et est-ce qu'elle était la première à le faire en Égypte, Gérald Messadier?
Les reines avaient du pouvoir, il n'y a qu'à voir l'exemple de Hatshepsut. Thi, la mère d'Akhenaton, était également avait au moins autant de pouvoir que son mari. Elle commandait des travaux, elles exerçaient une très grande influence. Oui, Néfertiti a dû exercer une très grande influence et elle a énormément consolidé le culte d'Aton. C'est la raison pour laquelle on lui a tenu si cruellement rigueur
quand elle est morte.
Quand elle est morte.
En tout cas, c'était 33 siècles avant la journée internationale de la femme, hein, c'était aujourd'hui. En tout cas, elle était très présente sur tous les monuments construits à l'époque. La revue des hiéroglyphes de l'époque par le Champollion de 2000 ans d'histoire,
oui,
Stéphanie Duncan.
J'ai mis mes petites lunettes. Bon, Néfertiti donc, est une reine égyptienne exceptionnelle. Hein, d'abord à Thèbes, son époux Amenophis IV, avant de devenir Akhenaton, fait construire 4 chapelles destinées au culte d'Aton et dans un de ses monuments, sur 28 immenses colonnes, on ne voit qu'elle, Néfertiti, hein, seule, faisant des offrandes au dieu Aton. Elle apparaît en effet 564 fois, donc beaucoup plus qu'Akhenaton lui-même, hein, seulement 320 fois lui, en preuve sans doute de son rôle capital sur le plan politique, en tout cas sur le plan religieux. Alors, très inhabituel pour une reine, on voit Néfertiti conduire un char, brandir le sceptre de la puissance, hein, frapper des adversaires avec une massue ou encore recevoir directement sur elle les rayons du fameux disque solaire. Alors vous l'avez dit, elle est très belle, hein, long cou, nez droit, yeux en amande, lèvres bien dessinées, menton décidé. Elle est coiffée d'une couronne de plumes et du fameux disque, toujours, d'Aton, avec cette inscription « Celle aux mains pures, la grande épouse du roi qu'il aime, maîtresse du double pays, Néfertiti, qu'elle vive ». Alors, ce rôle central auprès de son époux dans le culte d'Aton, Néfertiti le retrouve bien sûr dans la cité qu'Akhenaton, donc il est devenu Akhenaton, en l'an 6 de son règne, consacre à son dieu Aton. Néfertiti, dans les inscriptions, y est désignée comme, je cite, « celle qui fait reposer Aton par sa voix douce et ses belles mains portant des sistres ». Ou encore « le disque solaire se lève pour manifester sa faveur à Néfertiti et il se couche en redoublant d'amour pour elle ». Dans le grand hymne qu'Akhenaton adresse à Aton, Néfertiti, encore une fois, occupe une place centrale. Maître des couronnes, Akhenaton, que la durée de sa vie soit grande, que sa grande épouse, qu'il aime, la dame du double pays, Néfertiti, vive et rajeunisse pour toujours, éternellement. Et sur une des stèles frontières qui délimitent l'espace du temple d'Aton, on a retrouvé ce poème dédié justement à Néfertiti.
Oui, c'est de la flagornerie épouvantable.
Bah, vous allez voir cette flagornerie. Un petit extrait de cette flagornerie. Claire de visage, joyeusement ornée de la double plume, souveraine du bonheur, dotée de toutes les vertus, réjouissant de sa voix ceux qui l'entendent, dame de grâce, la princesse héréditaire, grande de faveur, maîtresse du bonheur, charmant le cœur du roi, la grande et bien-aimée épouse du roi, dame des deux pays, Néfer, Néferou, Aton, Néfertiti, la belle est venue, vivante à jamais.
C'est de la flagornerie. Mais quelle belle déclaration d'amour.
Oui, c'est Gérald super comme déclaration d'amour, mais même Mao Tse-Tung n'aurait pas osé en faire autant. C'est irréel.
C'était irréel. Elle faisait l'objet d'un véritable culte. Science.
Oui, c'est presque le culte de Néfertiti. Mais c'est vrai qu'il a dû être très très amoureux d'elle jusqu'à un point, Dieu sait qu'est-ce qui s'est passé, où peut-être prenait-elle trop de pouvoir dans le royaume aussi.
Oui, parce qu'on dit, parce que d'abord, ils affichaient, on les voit sur tous les bas-reliefs de l'époque, on les voyait tous les deux, c'était le grand amour affiché en public.
Charles et Lady Diana, oui, hein? C'était la même chose.
Mais c'était un amour sincère, c'était quand même assez rare ça aussi.
Écoutez, notre idée de l'amour, d'abord, n'est peut-être pas celle de l'époque. Ensuite, il faut quand même dire qu'il y a une grosse part de propagande là-dedans. Parce que le royaume est en péril et il faut donner l'image d'un couple uni. Alors que tout le monde sait à peu près la vérité, c'est que ce ménage va mal et que le royaume est en train de péricliter.
Il va mal, d'abord parce que Akhenaton tombe malade, à l'évidence. On le voit d'ailleurs sur toutes les statues qui sont restées, oui. Et notamment celles qui figurent Akhenaton. On voit un visage déformé, extrêmement long, très efféminé, comme ça n'existait pas du tout dans l'Égypte d'avant, ou non. D'après d'ailleurs, non, d'après eux. Ce qu'on appelle la statuaire armanienne, hein, c'est le style armanien.
Amarnien, pardon. Oui, ils ont inventé un style.
Un gros ventre, un visage très long.
Les épaules en saint-galmier. Non, mais surtout, sa grande faute a été de laisser péricliter l'Empire d'Orient. L'Égypte avait des provinces, elle avait la Palestine, la Syrie, le Liban et d'autres territoires au sud de la Turquie. Tout d'un coup, lui était là, enfermé dans son palais à écrire des hymnes à Aton. Et on perdait ces provinces les unes après les autres, d'où la révolte de l'armée. Il y a eu des révoltes dans les provinces. Le pays se désagrégeait de l'intérieur et de l'extérieur. La situation qu'il a laissée à sa mort était abominable.
Mais il était malade, dit-on aussi.
Oui, il était malade.
Il y a une maladie dont on avait rappelé le nom
tout
à l'heure.
On a dit le syndrome de Marfan. C'est apparemment ça. Il y a des os anormalement, des mains très très longues, des déformations du squelette. C'est possible, mais ça ne le rend pas pour autant ni efféminé ni idiot. On a dit qu'Abraham Lincoln aurait eu le même syndrome, et en tout cas, on sait que Paganini l'avait. Oui. Donc, c'est pas une maladie invalidante.
En tout cas, c'est pas ça qui va le faire que Akhenaton va éloigner Nefertiti du pouvoir. Non. C'est l'arrivée d'un homme qui est très présent aussi dans votre roman, Gérald Messadier, qui s'appelle Semen Khéré. Oui. Alors que c'est à la fois le demi-frère et sans doute l'amant de Akhenaton et le régent. Et autrement dit, c'est une relation qui est à la fois incestueuse et homosexuelle avec Akhenaton qui expliquerait le départ, la mise à l'écart de Nefertiti.
Tout d'un coup, elle disparaît de la vie, elle disparaît des bas-reliefs, elle va s'enfermer dans le palais du Nord. On le comprend très bien. Voilà une femme qui a quand même tenu les rênes du pouvoir avec son mari, qui était très très belle, qui lui a donné 6 filles. Bon, elle n'a pas pu donner de garçon, mais ça, c'est peut-être pas sa faute à elle. Et voilà ce Godeluro qui arrive et qui la supplante.
C'est Menferré,
oui,
c'est ça. Ouais.
Et qui la supplante et qui devient régent. Il a un pouvoir qu'elle n'a jamais eu.
Alors, lui, Akhenaton meurt à 37 ans. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là,
Selon
que devient
moi,
Nefertiti d'abord
selon moi, elle a tenté un coup d'État poussé par son père, Aï, parce qu'elle avait le goût du pouvoir. Elle ne pouvait pas laisser le pouvoir à ce Godeluro qu'il avait supplanté auprès de son mari. Le coup d'État a avorté pour une raison qu'on ne connaît pas, parce qu'on n'a pas de documents privés sur la cour. Ce qu'on sait, c'est que le jeune Semen Khéré monte sur le trône, il n'y reste d'ailleurs pas longtemps. Au bout de 17 mois, pour une raison complètement mystérieuse, à mon avis, c'est le poison, il disparaît, et on trouve un petit prince, souffreteux, charmant, mais au fond un débile, même Christian Desroches-Noblecourt dit que c'est un débile, c'est tout en Aton.
Il s'appelle Toutankhaton et il va devenir Toutankhamon.
Et qui va devenir Toutankhamon pour se concilier les clergés et rétablir les cultes anciens.
Mais est-ce qu'on sait d'où il vient? C'était même pas le fils de Akhenaton.
Il y avait un harem et c'est le fils d'une des nombreuses concubines d'Amenophis III.
Ouais.
Bon, Amenhotep III. Donc, et en réalité, il n'exerce aucun pouvoir. C'est encore une fois ce redoutable vieux lion de Haï qui est régent et tuteur. Et c'est lui qui tient le pays en main. Voilà. Et ça va durer. Et à partir du moment où Toutankhamon voudrait récupérer le pouvoir en son nom propre, il meurt lui aussi. Il y a une succession de morts à la fin de la 18e dynastie qui vous donne le vertige. C'est Macbeth de Shakespeare en un peu plus long. Et après donc la mort de Toutankhamon, nous avons Haï qui monte enfin sur le trône. Il a enfin eu ce trône. Il en voulait. Il devient pharaon.
Alors ensuite, il y a eu Horemheb, etc.
Fin de la 18e dynastie.
Alors tous ces gens-là vont en fait faire disparaître, effacer de la mémoire des Égyptiens ce que Nefertiti et son mari Akhenaton ont laissé, c'est-à-dire ce culte d'Aton. À ce moment-là, on s'efforce absolument de tout faire disparaître.
On casse les statues, on défigure les inscriptions, on le sait très bien, toutes les inscriptions à la gloire d'Akhenaton ont été martelées. Parfois, on utilisait la même pierre, on l'a retournée. Les momies disparaissent, ça c'est extraordinaire, on n'a jamais retrouvé la momie d'Akhenaton. Une archéologue américaine aurait donc retrouvé l'un des dernières, celle de sa femme, sans sarcophage. C'est un saccage épouvantable. On veut se débarrasser de la mémoire d'Akhenaton et de cette malheureuse Nefertiti qui, elle, n'y était pour rien. Enfin, je veux dire, elle a participé aux volontés de son mari, elle les a même soutenues. Mais ce saccage est une pure et parfaite horreur.
Au fond, on ne saurait absolument rien, ni de Nefertiti, ni d'Akhenaton, si on n'avait pas découvert ce fameux buste de Nefertiti.
On aurait su quand même
peu de choses.
À Tel et Amarna, il y avait énormément d'inscriptions qu'on a retrouvées, et les Talatat conservaient encore énormément de traces d'hiéroglyphes. Non, on aurait pu reconstituer, mais pas aussi bien qu'on l'a fait. En effet.
Parce que vous parlez de Tel et Amarna, leur capitale, qui est restée capitale de l'Égypte pendant très peu de temps. Ensuite, les pharaons sont retournés à Thèbes. Et qu'est-ce qui reste de Tel et Amarna, justement?
Oh, il reste quand même pas mal. on a fouillé, on pourrait encore fouiller pendant, à mon avis, 15 ans. Il faudrait bien quelques campagnes. On n'a pas tout fini d'inventorier. Moi, j'ai grandi pas très loin de là.
Vous êtes né au Caire, je crois.
Je suis né au Caire, mais j'ai vécu toute mon enfance à Bouquercas, qui est pas loin de Tell et la Marne. Et je me rappelle, les archéologues venaient à la maison, ils étaient complètement abasourdis par l'abondance de ce qu'ils avaient découvert. On a découvert peu à peu la civilisation amarnienne. Et évidemment, on a d'abord été fascinés par l'étrangeté. D'abord, il y a la beauté de Néfertiti, parce que il faut quand même vous dire que quand vous trouvez dans les sables presque le portrait de Greta Garbo. C'est Greta Garbo.
Ouais, magnifique, hein, magnifique.
Et vous trouvez ensuite cet art totalement bizarre, assez maniéré, très stylisé. Il y a des pièces de Tell et la Marne, on dirait qu'elles ont été dessinées par Modigliani. Mm. Ça fait incroyablement art déco par moment. On est très surpris. Donc ils étaient émerveillés. Il y avait plein de choses, il doit en rester encore pas mal.
Merci Gérald Messadier. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur de L'œil de Néfertiti, le premier volume d'une trilogie dont le deuxième, Les masques de Toutankhamon, vient d'être publié, comme le premier livre d'ailleurs, tous les deux aux éditions de l'Archipel. À lire également un hors-série du magazine Les clés de l'actualité junior, qui s'adresse aux enfants âgés de 8 ans et plus et consacré à l'Égypte. En cette journée de la femme enfin, je recommande un petit livre de circonstances, Le cœur des femmes, les 50 femmes du XXe siècle, de Roselyne Fèvre, publié chez Timet Éditions. Vous avez pu entendre des extraits du film Néfertiti de Guy Gilles, distribué en cassette vidéo par LCJ, un film d'ailleurs qui prend beaucoup de liberté avec la réalité historique. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Antoine Viossa, Michel Thomas, Virginie Bloch-Léné, Claire Tessier, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
Une émission de Patrice Gélinet.